Bonsoir week-end.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Le débat des grandes voix d'Europe 1 jusqu'à 19h avec la journaliste politique Laetitia Krupa, le directeur de la rédaction de Paris Match et éditorialiste Bruno Jeudy et Philippe Moreau-Chevrolet, professeur à Sciences Po, spécialiste de communication politique. Madame, messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Wendy.
Eh bien, ça y est, la France instaure une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19, annonce de Matignon tard hier soir. On vous entendra notamment sur le sujet. Le gouvernement qui accélère aussi sur les prochaines commandes de doses de vaccins pour 2022 et 2023. Manifestement, on apprend de ces erreurs. Et l'Union européenne qui pourrait ne pas renouveler le contrat avec AstraZeneca, vaccin qui est déjà dans le collimateur des Français. On parle de tout ça et puis de ce que vous avez vu, lu et entendu et ce qui vous a marqué cette semaine.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Hier, si vous étiez à l'écoute de ces grandes voix, Yves Treillard appelait le président et son équipe à humaniser la tragédie sanitaire, à sortir des chiffres, à livrer peut-être son émotion sur les 100 000 morts qui sont autant d'histoires poignantes. Les associations de victimes du Covid plaident pour une journée de deuil, d'autres pour un mémorial. Il ne peut faire l'économie de ce geste fort en symbole, c'est ce que vous nous disiez les uns et les autres. 100 000 morts et un dessin de presse redoutable, Philippe Moreau-Chevrolet, qui vous a touché dans le journal L'Opinion et que vous souhaitiez relayer pour commencer ce débat, Philippe.
Oui, un dessin de CAC qui montre Emmanuel Macron accueilli par des grands États, par Vladimir Poutine, par Bolsonaro. Et c'est marqué « Bienvenue au nouveau G8 ». Et le nouveau G8, c'est les pays qui ont plus de 100 000 morts du Covid et qui ont, on va dire, ce sont les plus mauvais gestionnaires du Covid de la planète. Et donc la France est officiellement rentrée dans ce club. Et donc ça pose tout un tas de questions sur la vision qu'on a de la politique sanitaire. Sur aussi la politique qu'on est en train de mener, puisque maintenant on a un an de recul, et je trouve que dans ce dessin, il y a tout. Il y a l'interrogation sur le rang de la France et de sa capacité à mener une politique de santé. Il y a une interrogation sur les intentions du gouvernement, qu'on ne comprend pas toujours très bien. Et puis il y a cette réalité sanitaire terrible, des 100 000 morts.
Oui, raison de plus pour ne plus être dans la lecture froide, frigorifique, disent certains, des morts, avec ses courbes, ses statistiques, Bruno Jeudy, et de comprendre aussi l'émotion de ces familles qui n'ont pas pu faire leur deuil.
Oui, c'est vrai. Lors du premier confinement, vous vous souvenez, au début de la crise, on avait tous été marqués par Jérôme Salomon qui venait tous les soirs égrener les terribles bilans quotidiens du virus. Et on a vu à la rentrée que le tir avait été corrigé et que Jérôme Salomon avait été prié de rester chez lui. Et on n'égrène plus ces chiffres, même s'ils sont publiés chaque jour, ce qui est normal par ailleurs de dire qu'on connaisse les chiffres. Mais la mise en scène de ce bilan quotidien avait donné un tempo assez mortifère de tout ça. Alors nous étions en guerre à l'époque, le président le disait. Aujourd'hui, on n'en est pas encore au geste, comme vous dites, on n'en est pas là, même si Jean Castex a essayé, lui, de corriger le tir, et ça lui avait été reproché dans ses conférences de presse de ne jamais parler des victimes du coronavirus, qui étaient devenues de sorte de mort invisible. Et il a corrigé le tir plusieurs fois dans ses interventions pour essayer maintenant d'en parler un peu plus. Alors, l'exécutif le fait. Faut-il un geste? Faut-il mettre ça sous forme d'une journée de commémoration comme le réclament les associations? Peut-être. J'avoue que je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question. Ce qui est certain, c'est qu'il faut sortir de la litanie des statistiques et de la comparaison entre les pays. Je trouve ça vraiment assez terrible et que c'est d'abord des familles qui sont endeuillées par les morts du Covid. Et aussi, les gens qui restent très longtemps en réanimation et qui ont des Covid longs avec des conséquences très longues dont on parle encore moins.
Voilà pourquoi le discours du professeur Raoult, une fois de plus cette semaine, qui considérait que au CHU de Marseille, tous les morts du Covid avaient finalement un an d'espérance de vie. On ne peut pas avoir cette froideur aujourd'hui alors que d'autres études considèrent que c'est une perte de sens pour ces victimes de 10 à 13 ans d'espérance de vie. Laetitia Krupa, voilà, ça nous replonge dans un débat qui nous dépasse et qui est très loin de l'humanité, qu'on a envie de retrouver.
Vis-à-vis de la position de l'exécutif, je poserais la question autrement, je la tournerais à l'envers, je me dirais pourquoi ils ne le font pas. Pourquoi le faire, ça on a tous compris, pour répondre à un besoin des familles de victimes, pour avoir donner un peu de ciment à cette nation qui parfois en manque. Mais pourquoi ne pas le faire? Alors Emmanuel Macron, on le disait hier, a préféré axer sa communication cette semaine sur la sortie de crise en donnant de l'espoir. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'était le spécialiste du « en même temps, pourquoi ne pas faire les deux ?» Regardez en Allemagne aujourd'hui, ils ont à 80 000 morts et ils commémorent ces morts. Ils ont décidé de consacrer une journée entière à ce type de cérémonie. Envoyer un message aux familles qui ont perdu un proche n'est pas contradictoire avec des messages de sortie de crise. Donc il y a bien chez Emmanuel Macron, en tout cas, puisque je pense que c'est lui qui prend la décision, quelque chose qui bloque pour l'instant. Je ne pense pas non plus que ce soit définitif comme type de décision, c'est-à-dire qu'il peut très bien décider, et on le sait, il change d'avis quand même assez régulièrement, sans en prévenir personne, et décider d'organiser une journée de commémoration.
Et cette journée allemande que vous évoquez peut-être aussi accélérer cette prise de décision, Philippe Moreau-Chevrolet, puisqu'on s'inspire beaucoup des voisins. Regardons aussi ce que l'on fait dans l'empathie, dans la compassion outre-Rhin, aujourd'hui, pour ces 80 000 victimes du Covid.
Oui, absolument. Il y a une vraie reconnaissance officielle à la fois de la tragédie que ça représente, du nombre de morts aussi. Et je crois que la clé quand même de la part des dirigeants et pour créer le ciment dont parlait Laetitia, c'est de reconnaître officiellement qu'il y a bien eu 100 000 morts en France, que oui, c'est tragique. Ne pas laisser dire des propos comme ceux de Didier Raoult sans les contredire, sans les condamner même quelque part officiellement. Parce que ceux qui souffrent ont besoin, donc on reconnaisse leur souffrance, les familles des victimes, tous ceux qui, comme le disait Bruno, et ils sont des millions, et on est vraiment très inquiets, sont atteints de Covid long, sont des gens qui vont avoir du mal à reprendre une activité normale, et ont déjà du mal à reprendre une activité normale. Tous ces Français-là ont besoin qu'on leur dise clairement qu'on les reconnaît, qu'on est avec eux. Il manque de la compassion dans cette gestion de crise depuis le début, parce qu'au fond, le pouvoir aurait bien aimé que cette épidémie disparaisse rapidement pour pouvoir refaire de la politique comme avant. Et on court vers le comme avant en permanence. On veut encore la réouvrir, c'est un autre débat, mais on veut encore réouvrir vite, vite, vite. Alors que non, il y a une crise, elle est réelle. Il y a des gens qui meurent, c'est vrai. Il y a besoin qu'on prenne le temps de faire le deuil, parce que souvent, il faut le comprendre, ce sont des familles qui n'ont pas pu faire le deuil. Moi, j'ai fait un enterrement par Zoom, Wendy.
Ouais,
un enterrement par Zoom, c'est lunaire. Voilà.
Ouais,
et il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas eu ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin aussi d'une reconnaissance officielle, c'est pour pouvoir faire leur deuil.
Et
c'est important qu'on leur donne.
Et on sait que malgré tout, avec les variants, on vit une nouvelle forme de la maladie, que chaque protocole sanitaire est remis en question encore et encore, et que la seule arme réellement efficace reste la vaccination. Et d'autres mesures, comme la décision hier soir, Bruno Jeudy, qui est tombée très tard de Matignon, d'instaurer cette quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. Nous avons été nombreux à dire enfin.
Oui, c'est la semaine où on a couru après le variant brésilien. On avait commencé ça tambour battant avec Clément Beaune qui expliquait qu'il n'y avait rien à ajouter comme mesure supplémentaire, suivi de Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, qui lui ne voyait pas quasiment où était le problème. Et puis lundi, tout à trac, les choses ont commencé à être réajustées par Jean Castex. Suspension des vols en provenance du Brésil, et puis la fin de semaine, la quarantaine, parce qu'évidemment, c'était sans doute la décision qu'il fallait prendre dès le début. Alors, ce qui faut toujours s'interroger, pourquoi on est toujours en retard? Ça, c'est vraiment une grande spécificité. Je crois qu'au début, il y a toujours l'idée, parce que l'explication qui était donnée, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là cette semaine. Pourquoi du retard? Parce que, en fait, le Portugal, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont fermé, ont suspendu les vols bien avant nous. Nous, on était toujours sur la logique qui a beaucoup prévalu depuis le début de cette crise, c'est-à-dire il faut une décision européenne, au moins des pays membres de l'espace Schengen. Donc on s'accrochait à ça. Et finalement, cette décision, elle n'est pas possible. Ça ne marche pas. Il y a des pays qui ne veulent pas, il y a des pays qui le font avant nous, il y a des pays qui n'attendent pas. Donc du coup, on attend. Et c'est vrai que la logique qui a toujours prévalu chez Emmanuel Macron, c'est son tropisme européen. Et on peut, sur certains aspects, être d'accord, mais là, non. Et du coup, ça explique les retards, les approximations, les erreurs. Et Jean Castex a corrigé en deux fois le tir cette semaine. Il faut quand même rappeler, et il faut parfois donner des chiffres, le variant brésilien, c'est à peine 1% des cas de contamination actuellement, quand c'est 20% au Portugal et 5% en Belgique. Donc à un moment ou à un autre, ça va monter chez nous. Mais pour l'instant, c'est très faible. Redisons-le à nos auditeurs.
Oui, mais on leur reproche de courir après, de prendre des mesures trop tardivement. Et vous avez raison, Bruno, bien sûr qu'il y a ce tropisme européen, mais quand on voit l'Allemagne et puis la Grande-Bretagne, et puis bon, même s'il est en dehors de l'Europe, mais d'autres pays comme ça qui ferment et qui suspendent les vols, pourquoi on comprend tout de suite, enfin je veux dire l'exécutif est assez intelligent pour se dire bon bah le modèle que nous avions pensé a priori ne va pas fonctionner parce que les pays vont décider d'un point de vue national. Donc là c'est toujours la France qui est crispée sur cette question des frontières, mais depuis le début Wendy, enfin je veux dire c'est depuis le début,
oui, oui.
La France refuse de fermer les frontières et de mettre en place une quarantaine. C'est pas fermer les frontières, c'est simplement une quarantaine, parce que là, on a suspendu des vols. Mais enfin, à quoi ça sert si d'autres rentrent via l'Allemagne, via d'autres pays, enfin, vous comprenez bien. Donc là, la quarantaine s'imposait et c'est vraiment, pour le coup, du sens commun. Donc ce n'est pas trop difficile à faire passer comme mesure politique.
Oui.
Mais il y a, ils freinent des quatre fers par rapport à cette mesure depuis le début.
Mais on comprend que de plus en plus, quand même, la France essaie de s'affranchir des décisions européennes. Preuve, AstraZeneca. Alors, d'un côté, le gouvernement s'est réuni cette semaine pour tenter d'anticiper l'achat de stocks de vaccins pour 2022 et 2023, sans attendre la cadence européenne. De l'autre, on a Philippe Manchot-Rollet, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, qui explique que l'Europe pourrait ne pas renouveler le contrat avec AstraZeneca en raison de retards de livraison accumulés depuis le début de l'année. Donc on a cet équilibre qui tente d'être trouvé par le gouvernement français. Un peu de souveraineté sanitaire et puis en même temps, on est européen.
Oui, c'est, comme vous dites, c'est le en même temps, c'est-à-dire ne pas se couper de l'Europe parce que la France rêve à sa présidence l'année prochaine et veut en faire un grand événement. Donc il est important pour Emmanuel Macron, dont c'est la seule colonne vertébrale idéologique, hein, comme l'a dit Laetitia, d'avoir un lien européen. Et en même temps, on se rend bien compte que, comme le disait Bruno jeudi, il y a très peu de décisions sanitaires prises par la Commission européenne qui ont du sens. Il y a un très gros retard sur les vaccins et sur d'autres choses qui est attribuable directement à l'Europe. Donc le gouvernement est pris entre deux, c'est-à-dire sa fidélité à l'idéal européen qui relève d'une idéologie, d'une croyance en tout cas, et puis la réalité sanitaire qui, pour préserver la population, préserver nos intérêts nationaux, il faut les appeler comme ça, demanderait des décisions différentes. On en est encore à débattre du fait de savoir s'il faut couper les vols en provenance de New Delhi, alors que le variant indien est au moins aussi terrible que le variant brésilien. Le principe de précaution imposerait de le faire, mais non. Et c'est le JDD qui l'expliquait ce matin très bien. On est dans une attente parce qu'il y a des considérations économiques, diplomatiques, européennes, etc.
Oui, et à côté de ça, et en même temps, eh bien, Israël, qui a quasiment atteint l'immunité collective, par un décret qui a été publié aujourd'hui, autorise de ne plus porter le masque en extérieur à partir d'aujourd'hui. Voilà,
oui,
on est à des années-lumière de cela. On est à des années-lumière de cela. Un petit mot sur AstraZeneca avant une petite pause, parce qu'on connaît les polémiques, la défiance vis-à-vis du vaccin. Elle attend des proportions quand même terribles, Bruno, je dis, en termes d'impact et d'image. Ces centres de vaccination qui sont fermés parce qu'il n'y a plus de candidats et ces doses qui seront jetées.
Ah oui, de toute façon, l'AstraZeneca, il est maudit et il est même aujourd'hui délaissé par nombreux Français. Et il y a même des médecins qui conseillent de ne pas se faire vacciner à l'AstraZeneca lorsque vous êtes pourtant éligible à ce vaccin. Donc c'est très compliqué aujourd'hui.
Donc
on vous dit,
bah
oui, mais c'est l'AstraZeneca ou rien. Alors, bah, y en a beaucoup qui disent rien, ou qui attendent et qui se disent, eh ben, dans 15 jours, j'aurai peut-être une
et
autre...
7 millions de doses
donc,
de Pfizer qui vont arriver.
C'est oui. Devenu... moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais je ne saurais pas quoi dire. Enfin, a priori, moi, je suis plutôt pour l'AstraZeneca, mais on ne finit par plus savoir. Et donc, évidemment, on a vu des vaccinodromes fermés, faute de candidats au vaccin. Et comme pour beaucoup des gens qui sont aujourd'hui éligibles, c'est-à-dire les plus de 55 ans, c'est quand même l'AstraZeneca qui est encore le vaccin qui est proposé, eh bien, les Français le délaissent et préfèrent attendre 15 jours ou 3 semaines qu'on leur propose du Pfizer ou autre chose.
Oui, encore un échec.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que pour l'instant, le gouvernement reste confiant, en tout cas dans sa communication. Hein, il n'arrête pas de dire, regardez ce qui s'est passé avec le vaccin tout court, c'est-à-dire qu'il y avait une défiance énorme. On était à près de 70% et finalement, avec le temps, avec les faits, en voyant son voisin se faire vacciner, puis finalement, voilà, avec l'exemplarité, encore une fois en Allemagne, Angela Merkel qui se fait vacciner par l'AstraZeneca sans caméra, certes, mais qui le fait savoir. C'est un, bien sûr que c'est éminemment fort et c'est un acte politique. Et il y a aussi un mouvement...
Castex a été vacciné, je crois,
avec l'AstraZeneca. Il y a aussi un mouvement sur les réseaux sociaux, je sais qu'ils ne sont pas tous, mais c'est intéressant de voir ce qu'il se passe. Il y a de plus en plus de jeunes qui demandent à être vaccinés et à ouvrir la vaccination à l'AstraZeneca en disant, écoutez, si les éligibles n'en veulent pas, nous on est là et on veut bien des doses. Vous voyez, il y a beaucoup aussi d'élan comme ça dans la société. Le pouvoir politique doit en prendre compte. Maintenant, ils ont choisi peut-être d'arrêter ce contrat parce qu'ils sont aussi en retard dans les livraisons. Enfin, ils promettent combien de millions de doses.
Un quart des livraisons au premier trimestre, un tiers des livraisons au second semestre. Ils n'ont pas tenu les doses qu'ils devaient fournir.
Bruno Jeudy, Laetitia Crépa, Philippe Moreau-Chevrolet, merci. On va se retrouver dans une petite minute, deux minutes exactement, sur Europe 1, dans ce débat des grandes voix. Séquence internationale qui arrive, puisque nous allons aller à la fois en Russie, en Afghanistan et à Dubaï ce soir. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix en débat en ce dimanche jusqu'à 19h avec la journaliste politique Laetitia Crépa, Bruno Jeudy, directeur de la rédaction de Paris Match, éditorialiste qui est avec nous, et le spécialiste en communication politique, professeur à Sciences Po, Philippe Moreau-Chevrolet. Une séquence importante, historique, que vous retenez de la semaine, Laetitia Crépa, c'est le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Joe Biden qui annonce mettre un terme à la guerre la plus longue qui engage les États-Unis sur un terrain étranger. Retrait d'ici la date terriblement symbolique du 11 septembre.
11 septembre, ce sera le 20e anniversaire des attentats du World Trade Center, à la suite desquels les États-Unis avaient décidé d'envoyer des troupes en Afghanistan. Alors, il s'agissait de chasser les talibans et d'installer une démocratie. Ça, c'est un fantasme de toutes les démocraties occidentales, puisque ça n'a pas marché. Mmh. On voit que les libertés sont revenues pour les femmes. Notamment, elles ont la possibilité, par exemple, d'aller à l'université. Donc, bien sûr que c'est capital, mais l'Afghanistan est devenu un bourbier. Et ce n'est pas Joe Biden qui le sait, mais déjà Barack Obama avait décidé ce retrait progressif des troupes de l'Afghanistan. Et c'est Donald Trump qui l'a signé. C'est Donald Trump qui a fait le deal. Je parle des États-Unis, donc j'emploie un anglicisme. Qui a fait le deal avec les talibans. Et il s'agissait de partir le 1er mai. Et finalement, Joe Biden a pris quelques mois. C'est intéressant parce qu'il essaye quand même de partir avec un bilan pas trop mauvais, c'est-à-dire qu'il essaye d'installer un accord entre le pouvoir en place et les talibans, qui, eux, menacent d'une guerre civile. Mmh. Donc, on voit que c'est une poudrière à l'Afghanistan et Joe Biden ne veut pas partir en laissant dernière nuit une situation explosive. Et enfin, il fait aussi du Trump. Vous savez pourquoi, Wendy ? Parce que avec les Américains, d'autres troupes de l'OTAN, toutes les autres troupes de l'OTAN vont partir. Et Joe Biden a consacré une partie infime dans son discours à ce sujet. Il n'a même pas contacté les présidents, les dirigeants européens pour les prévenir, peut-être pour les inclure d'une certaine manière à son discours. Et là, on est dans du Trump, c'est-à-dire quand l'America First, qui n'est pas un slogan de Trump, attention parce que ça remonte bien avant déjà Bill Clinton avec ce slogan-là, on y est en plein, voilà, dans cette diplomatie où les États-Unis écrasent tout le reste. Donc finalement, Biden a fait du Trump cette semaine.
Hyper vertical, voilà, ce retrait historique, cela dit, et cette séquence qui clôt une longue page de l'histoire américaine. Merci Laetitia Crépa. Puisque nous sommes à l'étranger, vos yeux se braquent vers un président français, mais qui s'est de nouveau exprimé.
Oui, alors le président s'exprime, c'est une interview qui sera diffusée, je crois, en fin de journée ou en début de soirée sur... qui a été réalisé avec le média américain CBS, une télévision. Donc c'est le président français qui revient. Alors il y a une très longue séquence diplomatique. Il félicite évidemment Joe Biden qui va, après l'Afghanistan, va lancer une séquence sur le climat. Mm-hmm. Il va y avoir un sommet. Joe Biden s'appuie sur John Kerry qui avait beaucoup œuvré pour les accords de Paris. Et dans cette interview, Emmanuel Macron fait un mea culpa, il revient sur les gilets jaunes et il dit « Moi j'ai fait une erreur en France, attention, il faut accompagner les gens, faisons attention quand on augmente quand on fait la taxe carbone, on risque d'avoir de gros problèmes. » Alors bon, il l'a déjà dit, on le sait, il avait fait ce même mea culpa en 2019, c'était devant l'Organisation internationale du travail et c'était déjà à l'étranger, à Genève.
C'est vrai.
Tout ça pour dire qu'Emmanuel Macron, sur le mea culpa, eh ben, il faut plutôt l'écouter quand il est à l'étranger, parce qu'en France, c'est un peu plus discret. Alors c'est vrai qu'à l'étranger, ça s'entend moins, là, ce sera en anglais, donc ça, c'est dit, ça se voit pas, ça se voit un peu moins, ça s'entend un peu moins, mais c'est une stratégie de communication habile, peut-être trop habile, peut-être qu'il devrait... Il y a un profil un peu plus humble à l'étranger. On aimerait parfois que ce soit aussi le cas ici à Paris.
Vous l'avez écouté, vous l'avez entendu en tout cas, Bruno Jeudy est relayé sur l'antenne d'Europe 1. Merci Bruno. Pour vous, Philippe Moreau-Chevrolet, ce soir on part à Dubaï avec un extrait d'un documentaire de Marie Saint-Filtre. Elle est humoriste, comédienne et c'est un documentaire à charge sur les deux faces de Dubaï. Petit extrait et vous réagissez Philippe.
C'est de l'esclavage, c'est-à-dire que s'ils attrapent une maladie, y inclut le Covid, on les prend, on les déporte comme dans un camp de concentration qui se trouve au fin fond du trou du cul du monde et on les met dans des pièces où c'est dégueulasse. Comme il manque juste les barreaux.
Alors cet habitant de Dubaï, interrogé en caméra cachée sur une plage en maillot de bain, parle de l'autre réalité des ouvriers, des workers qui vivent dans des camps de travailleurs, Philippe, et ça vous a évidemment frappé pour plein de raisons.
Oui, alors ce qui m'a frappé, d'abord c'est un documentaire sur YouTube, donc c'est de l'investigation, mais pas fait exactement avec des règles journalistiques, tout est fait en caméra cachée, le style est un petit peu, peut être involontairement comique parfois, on est entre Conas, la série de Camille Cotin, et puis Élise Lucet, donc c'est à mi-chemin entre les deux, parfois on a du mal à situer, il y a plus de 2,5 millions de vues hein, pour cette série, il y a même un clip de promotion qui a été fait, c'est monstrueux, et en fait pourquoi ça m'a intéressé Dubaï, parce que on ne parle que de Dubaï sur les réseaux sociaux, tous les influenceurs qui comptent en France, Nabila et tous les influenceurs de la télé-réalité sont à Dubaï et montrent des salaires mirobolants sur lesquels ils n'ont aucun impôt. Hein. C'est la vraie raison du choix de Dubaï. Il n'y a pas de restrictions sanitaires non plus. Donc c'est une espèce de, comme elle le dit, Marie Saint-Filtre dans le documentaire, c'est une espèce de mirage. Donc c'est un long dimanche qui dure les mille et une nuits. Elle a plein d'expressions comme ça qui sont assez bien vues. Et c'est vrai qu'on a, c'est un peu une sorte d'enfer en réalité, puisque les travailleurs immigrés dont ils parlent sont effectivement n'ont aucun droit, parfois n'ont plus leur passeport.
On leur confie leur passeport,
beaucoup
c'est
de temps
terrible.
À parler de la, on leur confisque leur passeport et puis on parle aussi de la prostitution à Dubaï, beaucoup dans le documentaire, qui est endémique et qui est vraiment une industrie là-bas, avec des groupes mafieux qui commencent à investir à Dubaï. Donc en fait, Dubaï, c'est à la fois le rêve pour beaucoup de gens qui sont accros aux réseaux sociaux, c'est une espèce d'icône.
Un paradis artificiel.
Et en même temps, la réalité est vraiment... Voilà, un paradis artificiel, et en même temps, la réalité est complètement sordide. Donc c'est ça.
Et vous recommandez quand même ce documentaire à charge, fait dans les limites hein,
oui,
en effet, de l'éthique
journalistique,
parce que caméra cachée...
elle n'est pas journaliste,
minutes, elle
c'est,
pas journaliste
pour ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles déontologiques liées au journalisme.
Ouais. Mais elle fait un sacré boulot.
Ça pose tout un tas de problèmes.
Ouais.
Ça pose tout un tas de problèmes, mais il y a un public monstrueux pour regarder ça, parce que Dubaï est au cœur de notre imaginaire aujourd'hui.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet. Cher Bruno Jeudy, Paris Match sort exceptionnellement plus tôt cette semaine.
Oui, absolument. Il y a eu les obsèques du prince Philippe hier, donc nous sortirons plus tôt cette semaine, sans doute mardi ou mercredi.
Et vous êtes en
si
plein bouclage.
Donc
je vous remercie d'être venu nous voir. Laetitia Acrepa, on parlera d'une des actus qui vient bientôt pour vous. La sortie d'un livre sur la tentation du clown. Merci Laetitia, merci Philippe Moreau-Chevrolet. Eh bien, si vous nous rejoignez, c'est l'heure de l'info. Bonsoir Sophie Tussaud.